Le journal de l'économie avec François Geffrier.
Il est 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Ouf, ça n'est plus un chantier, c'est officiellement un réacteur nucléaire. L'EPR de Flamanville va pouvoir être mis en service d'ici quelques semaines. Jean-Pierre Farandou est prié de rester à bord de la SNCF jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques, mais prié de descendre juste après. Et puis le gouvernement continue d'attiser la flamme, pas seulement des JO, mais aussi de l'attractivité économique avec le sommet Choose France à Versailles, ce sera lundi. Voilà un communiqué qu'on n'espérait même plus. Par décision du 7 mai 2024, l'ASN a autorisé la mise en service du réacteur EPR de Flamanville. Voilà, c'est sobre et c'est pourtant un feu vert ô combien attendu. Au départ pour 2012, nous sommes en 2024, les délais ont été multipliés par 3 et le coût par 4, 13 milliards d'euros et même 19 milliards en tenant compte des frais financiers. Éric Mauban, que va-t-il se passer exactement maintenant ?
Eh bien, ça y est, EDF va commencer à charger le combustible nucléaire dans l'EPR de Flamanville, l'EPR le plus puissant du monde. C'est une étape cruciale sur la voie de l'exploitation. Cela va permettre de procéder à des essais afin de vérifier le bon comportement du réacteur et des dispositifs de sûreté. Une fois que le réacteur aura atteint le quart de sa puissance, c'est-à-dire dans quelques mois, il sera possible de raccorder la production au réseau électrique. L'EPR devrait être en capacité d'atteindre sa pleine puissance à la fin de l'année. Autant dire que toute la filière va suivre avec une grande attention le chargement du combustible dans la cuve. L'enjeu est de taille puisque la France veut remettre l'atome civil sur le devant de la scène avec la construction de 14 nouveaux réacteurs. Il s'agit maintenant pour le nucléaire français de montrer toute l'expérience acquise lors de ce chantier de Flamanville, maintes fois retardé comme ses cousins finlandais, chinois et anglais, eux aussi gérés par EDF.
Merci Éric Mauban. C'est donc la fin du voyage pour Jean-Pierre Farandou à la tête de la SNCF. Il espérait être reconduit au moins jusqu'à la limite d'âge, 68 ans, mais le gouvernement a annoncé hier son remplacement juste après les Jeux Paralympiques qui s'achèvent le 8 septembre. Quel bilan tiré du mandat de Jean-Pierre Farandou qui disait parler le cheminot première langue ? Gilles Dansard dirige le média spécialisé Mobilettre.
Le mandat de Jean-Pierre Farandou, c'est 5 années sous contrainte. Il est arrivé juste avant la grande grève contre la réforme des retraites, juste avant la pandémie Covid. Et puis par la suite, il y a eu à nouveau les mouvements de grève, les conséquences du Covid sur le rapport au travail avec des métiers d'astreinte et de pénibilité plus difficilement supportés par les salariés. Et là-dessus, une demande qui explose et pas assez de matériel, notamment des TGV, pour assurer les trafics. Donc c'est vraiment une présence sous contrainte, mais de laquelle il est finalement sorti avec les honneurs, puisque la SNCF ne génère plus de pertes, bien au contraire, elle génère des bénéfices, ce que lui demandait le gouvernement. L'annonce est un peu brutale.
Jean-Pierre Farandou apprenait hier matin son départ prochain, et hier après-midi, il était auditionné au Sénat. Il a répondu à la polémique, celle qui lui a valu la colère de Bruno Le Maire, celle sur l'accord sur la retraite anticipée des cheminots, en particulier les contrôleurs. La réponse du PDG de la SNCF a été très claire.
C'est un bon accord qui ne contourne pas la loi sur les retraites, qui est dans les pratiques des grandes entreprises publiques et privées. Son coût est raisonnable, avec de vrais bénéfices pour l'entreprise. Il ne coûtera rien, ni aux contribuables, ni aux clients, ni aux caisses de retraite. Il existait depuis 2008 et sa renégociation a été initiée à la demande des pouvoirs publics et conduite en responsabilité et en transparence. Je m'engage à compenser le coût, sans le répercuter bien sûr sur le prix des billets, et à préserver les marges de l'entreprise. Donc, il ne coûtera rien aux contribuables, puisque je gagne 1,3 milliard de résultats nets. Je peux bien financer 35 millions, 3%. Et les plans prévisionnels que nous faisons me rendent confiant dans ma capacité à le financer dans la durée. 35 millions, coût de l'accord total, divisé par 122 millions de billets. Faites le calcul, 29 centimes. Vous croyez que je vais augmenter les prix des billets de 29 centimes ? Enfin, c'est ridicule, cet argument n'a pas lieu d'être. Et je préserve les marges.
Jean-Pierre Farandou hier au Sénat. Le rendez-vous est désormais bien ancré, le sommet Choose France au château de Versailles. Ce sera lundi, l'occasion de prouver que la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers. Près de 150 patrons venant du monde entier seront là. Et Céline Cajoulis, on attend une grosse série d'annonces d'investissement.
Cette 7e édition s'annonce comme une année record avec le plus grand nombre de contrats jamais annoncés. Certains concernent des entreprises qui ont déjà investi en France et d'autres des entreprises qui le feront pour la première fois. Difficile pour l'instant d'en savoir plus car certains investissements sont toujours en discussion, mais il y en aura dans la santé, la décarbonation, l'intelligence artificielle et la réindustrialisation. On sait déjà qu'aux côtés des 60 grands patrons français, il y aura 80 PDG étrangers, dont un tiers qui viennent pour la première fois, 20% qui viennent d'Amérique du Nord, dont plusieurs banquiers, comme ceux de Goldman Sachs ou de JP Morgan, mais aussi ArcelorMittal, des laboratoires pharmaceutiques, et pour la première fois, 20% de dirigeants asiatiques, ainsi que plusieurs fonds souverains. Lundi matin, Emmanuel Macron fera un déplacement sur un site concerné par l'une des annonces majeures, puis il rejoindra le château de Versailles. Il y aura ensuite deux tables rondes, des entretiens bilatéraux entre les PDG et le président ou certains de ses ministres, et puis une grande plénière avant un dîner dans la Galerie des Glaces, comme lors de la visite du roi Charles III.
Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique. La fête à Marseille aujourd'hui pour l'arrivée de la flamme olympique, première étape d'un relais de 79 jours à travers la France. Les deux tiers des départements se sont portés volontaires pour l'accueillir. Des communes ont aussi décidé de se regrouper pour prendre en charge les frais, car c'est bien aux collectivités de financer en partie le passage de la flamme. Elles espèrent donc d'importantes retombées économiques, Zoé Pallier.
La flamme olympique passera par Châteaudun, en Eure-et-Loire.
Dimanche 7 juillet 2024.
Le maire Fabien Verdier.
On communique depuis des mois sur la flamme. Ça va faire venir des touristes qui vont consommer dans nos 186 commerces, qui vont faire travailler tous nos gîtes, campings. On continuera à communiquer après, on fera des photos, des vidéos, etc.
Coût de l'opération pour la commune, 20 000 euros, plus les frais de logistique. Ailleurs, le plus souvent, ce sont les départements qui payent. Ils versent 180 000 euros au comité olympique et en font eux aussi un argument marketing. Patrice Ballester est géographe, spécialiste du tourisme.
Par exemple, pour le Vaucluse, la collectivité locale et le département ont mis en avant le fait qu'ils ont investi plus de 4 millions d'euros pour remettre à niveau, pour le moment de la flamme, les infrastructures sportives.
Mais les espoirs risquent d'être en partie déçus, car il n'existe aucune étude sur l'impact de cet événement, précise Patrick Clastre, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'olympisme.
On peut imaginer un petit tourisme local, mais ça ne vaut pas 180 000 euros pour mobiliser des touristes qui ne connaissent déjà en partie leur département. Le Tour de France, ça a un impact. Il y a une scénarisation avec un intérêt construit de longue date. Là, c'est tout à fait différent.
On sera fixé dans quelques jours, confie une employée de mairie, quand on saura, poursuit-elle, s'il y a ou non un engouement dans les premières villes du tracé.
Zoé Pallier, et on continue à parler de la France carte postale. Bonjour Didier Arino.
Bonjour François Geffrier.
Directeur général de ProTourisme, société de conseil dans le secteur du tourisme et des loisirs. Nous sommes en plein pont de l'Ascension rallongée par le 8 mai. Est-ce que les Français partent massivement?
Alors jusqu'à présent, les Français ne sont pas massivement partis car la météorologie n'était pas favorable. Il y a un petit peu de retard pour le 1er mai, mais là, il y a une accélération des réservations pour ce pont, ou plutôt ce viaduc du 8 mai, avec près de 30% de nos concitoyens qui feront un break, une escapade au cours de ce mois de mai, ce qui laisse augurer une belle fréquentation dans nos différents espaces touristiques, avec une belle répartition de la clientèle, même si pour ce pont, on voit que les Français privilégient quand même les destinations du littoral.
Justement, où partent majoritairement les Français sur ce genre de court séjour?
Alors, cette année, on a pu constater avec les ponts, il suffisait de poser quelques journées pour pouvoir partir une semaine, voire 15 jours. Donc, il y a eu une forte reprise des départs à l'étranger, facilitée par le développement des low cost. C'est souvent plus facile de partir à l'étranger au départ d'une grande métropole que d'aller dans certaines contrées de nos provinces, pourtant fort agréables et fort attractives. Mais on a, dans les choix vers la destination France, des Français qui privilégient le littoral. Ils ont très envie de soleil après plusieurs mois et plusieurs semaines de mauvais temps. Donc on voit qu'il y a une volonté vraiment d'aller vers les destinations soleil.
Didier Arino, pour cet été, qu'est-ce qui se dégage? Est-ce qu'on va partir et où?
Alors cette année, on a un budget vacances qui est en baisse de 7% par rapport à l'an dernier. On avait eu un phénomène de rattrapage post-Covid avec nos concitoyens qui avaient puisé dans leurs économies. Mais cette année, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a moins de partants. Plus de partants à l'étranger, ce qui signifie très concrètement que les réservations sont en retrait pour bon nombre de nos destinations. Espérons que les réservations de dernière minute se fassent en faveur de la destination France. C'est probablement le cas. D'ailleurs, il y a un tiers de nos concitoyens qui envisagent de partir moins loin, moins longtemps, ou de changer de forme d'hébergement du fait d'un budget en baisse. Mais on constate une nouvelle fois, comme pour ces ponts du printemps, une volonté d'aller plutôt vers le littoral et une reprise notamment du littoral méditerranéen.
Didier Arino, merci beaucoup. Un regard sur les marchés financiers très calme hier et stable. À Wall Street, le CAC 40, lui, a gagné 1% à 8075 points. Le Nikkei, en ce moment, progresse d'1%, d'1,50% à 38215 points dans un instant. La météo, le journal.